En ce 8 février, j'ai choisi de vous parler de Saint-Jean de Matha, parce que c'est pour nous ici à Ville-Marie, à Montréal, quelqu'un de bien important dans un sens, puisqu'il est le fondateur des Trinitaires et que nous avons des Trinitaires ici, en particulier hier soir on l'entendait l'un d'entre eux, qui est responsable de la Maison du Père, le Père Silvio Michaud, qui est extraordinaire de courage et d'audace. Il s'occupe de cette Maison du Père où il essaie d'arracher à la prison de la pauvreté des centaines et des centaines de gens. Et la Maison du Père, comme vous savez, est située au 550 Est, boulevard René Lévesque, où ils ont bien besoin d'aide. En particulier, ils ont besoin de vêtements chauds et de choses comme ça pour ces pauvres itinérants. Et nous n'avons pas à juger, n'est-ce pas, de ces itinérants, nous chrétiens. Nous devons, au contraire, les aider, nous approcher d'eux, et malgré toutes les difficultés que nous pouvons éprouver psychologiquement, nous devons faire comme le père Silvio Michaud, être des frères pour eux. Donc Saint-Jean de Matha, fondateur des Trinitaires, mais c'est aussi la fête d'Étienne de Grandmont, Saint-Étienne de Muret, si vous voulez, qui s'appelait de Grandmont parce qu'il a fondé à Grandmont un monastère et ça s'est répandu, ces moines. Ils sont disparus aujourd'hui. Sainte-Jacqueline de Septisole aussi, ou plutôt la bienheureuse Jacqueline de Septisole, qui était une disciple de Saint-François d'Assise et qui est morte en 1274. Et enfin, il y a aussi le fameux Saint-Jérôme-Émilien. Quel saint merveilleux dont j'ai hâte de vous parler l'an prochain, qui était évêque de Venise et qui est mort en 1537. Son vrai nom était Jérôme Miani. Et enfin, le moine Vallombrosin, qui est devenu cardinal évêque d'Albano. Je vous ai parlé d'Albano lundi dernier, où est né cet grand ensemble de congrégations des pères de Saint-Paul, des sœurs de Saint-Paul. C'est Pietro Digneo, ou Digneo si vous préférez, qui est mort en 1089. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Je veux donc vous parler de Saint-Jean de Matha. Tout ça se passe au XIIIe siècle. Et en fait, il est né au XIIe, en 1160. Le XIIIe siècle, en Occident, est souvent considéré comme l'âge d'or d'une société qui était profondément imprégnée par le christianisme. Mais pourtant, et s'il y a eu des manifestations religieuses absolument étonnantes au XIIIe siècle, manifestations culturelles aussi, est-ce que c'est simplement une espèce de, comment on dirait, la partie visible d'un iceberg, hein? Parce que si l'on regarde de plus près la réalité du XIIIe siècle, beaucoup de nos illusions tombent. Sur le plan social, par exemple, la condition des paysans évolue peu. Les paysans sont dans une pauvreté épouvantable. Sur le plan aussi du consensus religieux, de l'unité de l'Église, on peut dire que c'est l'âge d'or des hérésies. On pense souvent que les hérésies sont arrivées avec nos chers frères protestants. Je parlais justement avec l'un d'entre eux tout à l'heure, que l'on appelait autrefois les hérétiques, n'est-ce pas? Que ce serait au XVIe siècle, mais pas du tout. C'était plein d'hérésies de toutes sortes, comme c'est le langage théologique. En fait, des gens qui cessaient d'être catholiques et qui remettaient en cause la foi catholique. Et c'était, en somme, la mise en cause fondamentale de cette société chrétienne. C'était aussi le rejet de la coercition qu'exerçait souvent l'Église catholique, qui était sévère et stricte. Évidemment que cette coercition, on peut la comprendre dans un certain sens, hein, parce qu'elle était liée à la naissance de toutes sortes d'hérésies, qu'on pense au cathare, dont je vous ai déjà parlé, et qui était une hérésie terrible. Et il y avait les vaudois aussi, mais quantité d'autres, toutes sortes de petites hérésies, surtout spirituelles, hein, qui ressemblaient un peu à la spiritualité franciscaine, mais qui, au lieu d'être fidèle à l'Église catholique, débordait, rejetait l'Église catholique. Et alors, il faut dire que le recrutement du clergé était faible à l'époque, hein, comme aujourd'hui. Et puis, l'Église avait beaucoup de difficultés à maintenir l'unité. Il y avait aussi la pastorale qui était peu développée, la prédication, même dans les villes, hein, c'était pas très fort. Mais pourtant, ce 13e siècle, c'est un grand siècle chrétien aussi en même temps, et peut-être dira-t-on, de la fin du 20e siècle et du début du 21e siècle, c'était une grande époque chrétienne quand on étudiera tout ce qui surgit actuellement dans l'Église de choses absolument merveilleuses, mais que l'on ne voit pas parce qu'on est trop collé sur les choses qui nous font souffrir dans cette Église actuellement, en particulier le manque de fréquentation des sacrements. Or, si ce 13e siècle est un siècle chrétien, c'est que pour la première fois, depuis le début du Moyen-Âge, les réalités dures là, de l'économie et de la société vont commencer à être maîtrisées. Elles peuvent être saisies par toute une spiritualité profonde. Et c'est pas par hasard que l'on a caractérisé le 13e siècle comme le siècle des cathédrales. Pensez aux grandes cathédrales que ces foules de catholiques construisaient, avec une passion et un amour et un enthousiasme où existait sans doute le désir de faire mieux que les autres dans une autre ville, mais il y avait aussi le souci de la gloire de Dieu et de rendre gloire à Dieu par ces échafaudages de pierres fantastiques afin de rendre hommage à ce Dieu qu'on voulait adorer et vénérer ensemble dans de grands espaces. Et c'est un acquis énorme, hein, sur le plan humain, d'abord sur le plan artistique, mais aussi un acquis énorme sur le plan de la foi. Et la voûte de ces cathédrales s'élance très haut, les murs s'affinent, deviennent comme de la dentelle, et puis les vitraux chatoient sous les rayons du soleil, hein, que c'est beau quand on visite les grandes cathédrales de Bourges ou de Chartres ou de Notre-Dame de Paris. Les nervures là, de l'architecture qui courent comme des veines, hein, le long des piliers, on dirait que tout ça irrigue les édifices d'un sang nouveau. Et ça n'est pas rien qu'un défi à l'équilibre. Hein. Il y a des arcs boutants, il y a la clé de voûte aussi, qui nous rappelle que le Christ est la clé de voûte de la grande Église mystique, qui est l'Église catholique d'abord, mais aussi l'ensemble des chrétiens qui sont nos frères. Ce sont les résultats, tout ça, d'une patiente recherche dans les temps passés, à l'époque romane, qui ont rendu possible ce grand miracle de l'art gothique du XIIIe siècle. Et dans le domaine de la pensée au XIIIe siècle, on voit aussi l'aboutissement des efforts qui sont déployés depuis plusieurs siècles pour sauver de l'oubli l'acquis culturel de l'Antiquité. Les moines se mettent au travail dans les scriptoriums et transcrivent des textes anciens païens afin de conserver la pensée des grands auteurs grecs et romains. Ce sont les moines bénédictins en particulier qui ont accompli cet admirable travail de patience, transcrivant les textes grecs et latins. C'est un énorme matériau, ça, pour la pensée même d'aujourd'hui. Ça pourrait être un simple travail d'érudition. Mais la pensée de ces grands auteurs anciens est intégrée dans une grande vision chrétienne, et c'est ce qu'a accompli en particulier avec Aristote, saint Thomas d'Aquin. C'est tout le savoir humain, en somme, qui s'élance en une puissante architecture, comme les cathédrales, sous l'autorité, on peut dire, de la théologie catholique. La politique, l'économie elle-même, bénéficient de tout cet état de choses. Puis à mesure que l'Occident sort de l'anarchie, qui a suivi les grandes invasions qu'on appelle les invasions barbares, ce sont les gens qui descendaient du nord, hein, et qui renversaient tout et qui ravageaient les monastères et sont allés jusqu'à Rome, on le sait, je vous ai déjà parlé de tout ça. Les États contrôlent mieux aussi ce qu'on appelle les féodaux, c'est-à-dire ces seigneurs ou ces ducs, ces princes qui ont des territoires souvent assez immenses, mais il faut que les États unis, si on peut dire, ils unissent tout ça, faut contrôler tout ça, hein. Puis les richesses, les idées circulent à nouveau grâce à ça. Puis une maîtrise nouvelle, hein, qui est orientée dans le sens d'un service plus grand de la gloire de Dieu. Et une plus grande attention aux pauvres aussi. Alors d'une part, on voit dans les grands monastères bénédictins de l'ordre de Cluny, une grande attention à rendre gloire à Dieu. Et les ordres mendiants aussi se rassemblent quand même pour prier en gloire à Dieu, mais comme les franciscains s'occupent beaucoup des pauvres, et on fonde de plus en plus des organisations pour s'occuper des gens délaissés. Alors les grandes figures dans lesquelles les hommes du XIIIe siècle se reconnaissent sont plus que jamais des saints. Ça prend des saints pour faire des siècles dont on se souvient. Ça prend des mystiques comme saint François d'Assise, comme saint Dominique. Je vous en ai parlé tous les deux. Hein. Nous avons fait de bonnes émissions, j'espère, d'une heure sur saint François d'Assise, sur saint Dominique. Il y a aussi un grand saint au XIIIe siècle, c'est saint Jean de Matha, dont je vais vous parler aujourd'hui. Ils sont engagés dans ce monde, hein, tous les trois, même si c'est pour contester ses fausses valeurs et ses erreurs. Ce sont des saints qui, comme saint Thomas d'Aquin et saint Louis, roi de France, dont je vous ai parlé aussi, saint Louis, cherchent à pénétrer la réalité politique, la recherche intellectuelle. Ils cherchent à pénétrer ça d'un esprit nouveau. Et sans doute à chaque floraison de l'intelligence dans l'histoire de l'Église et de la sainteté, c'est pas nécessairement ensemble tout le temps. Ça rejoint pas toujours la masse des gens. Ça rejoint pas toujours l'adhésion des gens. La foule n'a pas toujours la même ferveur. Et c'est grandement dommage. C'est que les moyens de communication ne sont pas toujours comme ceux d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous avons de grands moyens de communication qui transportent le contraire de la pensée de nos saints. Toutefois, il faut accorder à certains grands moyens de communication, même des grandes revues comme Time Magazine ou Paris Match, etc., qui font à l'occasion des articles fort intéressants sur certains de nos saints, mais ce sont toujours les mêmes, comme Mère Teresa et quelques autres. On a beaucoup parlé aussi de Monseigneur Romero, dont j'ai hâte de vous parler. Mais pour savoir ce qu'il en est des deux tiers non visibles de la population et au niveau le plus profond au XIIIe siècle, on a des critères plus ou moins scientifiques, tels que ceux que les historiens modernes utilisent, mais c'est très inadéquat, on n'a pas tous les documents. Dans ce sens, l'histoire de l'Église ne peut être mise sur le même plan que les autres histoires, parce qu'elle exige une certaine sympathie. Il faut aimer un peu au moins l'Église pour pouvoir en parler, je crois. Pour comprendre de l'intérieur ce qui anime des gens très simples. Et ne pas faire de l'histoire de l'Église une histoire d'élite. Une histoire pour les élites, les grands saints, les grands savants, les grands théologiens, les grands auteurs, et aussi, mais la foule, elle, peut-être avec un chapelet à la main ou à genoux devant une statue, ont aussi au cœur des valeurs très profondes de l'Évangile, souvent, beaucoup plus qu'on pense. C'est là qu'on peut comprendre le phénomène à la fois religieux et social de ce XIIIe siècle, comme de notre temps d'aujourd'hui. La construction sur toute l'Europe des cathédrales dont je vous ai parlé, puis le succès foudroyant aussi de la prédication des franciscains peuvent s'expliquer par bien des raisons économiques notamment, hein. Mais on pourra rendre pleinement justice à ces événements sans y voir, à mon sens, l'imprégnation profonde d'une foi chrétienne très authentique sur de larges couches de la population, hein. Savez-vous que la raison pour laquelle les féodaux dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ceux qui étaient sujets à un prince important ou à un roi, mais qui avaient des pouvoirs énormes, Pourquoi les féodaux ont cessé de se battre à un moment donné, c'est qu'ils étaient nourris de la pensée franciscaine. Ils faisaient partie du tiers ordre, comme on appelle, l'ordre, le troisième ordre de Saint François. Et que nourris de la pensée de Saint François, ils déposaient les armes qu'ils avaient à l'époque, peut-être des fourches ou des faucilles. Mais ils se battaient quand même autrefois pour défendre leur prince qui les obligeait à se battre, ces pauvres gens, mais nourris de la pensée chrétienne de Saint François. Nourris de ce saint qui était très près du cœur de Jésus et de l'Évangile même, eh bien la paix a régné. Il faut lire ça dans des grands ouvrages du père Gemelli. Alors, c'est passionnant à lire, j'ai lu ça il y a des années, ça m'a bouleversé de voir comment le christianisme peut faire surgir la paix quand il est vécu. Ils n'étaient pas tous des saints, ces gens-là. Mais parfois suffit de peu de choses pour que ressurgissent de vieux démons dans ces foules-là. Mais jamais peut-être dans l'histoire de l'Église, au XIIIe siècle, la société n'a été si profondément traversée par un désir de spiritualité, de don total. Et jamais l'appel à la sainteté n'a trouvé un tel écho dans tous les milieux et dans tous les âges. Et l'un des grands appels à la sainteté a été lancé par Saint Jean de Matin, qui a fondé l'ordre hospitalier de la très sainte Trinité et des captifs. C'est un beau nom. Ce sont les Trinitaires. C'est le titre officiel, ce que donnent à cette grande famille religieuse les documents pontificaux. Cette famille est issue au XIIe siècle d'un vif sentiment de compassion pour toutes les infortunes de l'âme et du corps. Plus spécialement, de ce désir très profond de remédier au plus grand malheur de l'époque, c'était la captivité des chrétiens chez les musulmans en Afrique du Nord. Je m'en excuse auprès des musulmans qui pourraient être blessés par ce que je vais raconter, mais les musulmans nous racontent bien les barbaries ou les actes barbares que nous, chrétiens, avons commis durant les croisades, et j'en ai parlé déjà, on peut bien aussi parler à cœur ouvert, sans vouloir mépriser quiconque, mais raconter les choses telles qu'elles se sont passées, afin que d'ailleurs aujourd'hui nos frères musulmans empêche que dans quelques pays encore aujourd'hui, il y ait certaines oppressions contre les chrétiens. Vous savez que ça se produit, n'est-ce pas, au Soudan et dans d'autres pays. Et nous, chrétiens, il semble que nous ne soyons pas très délicats, c'est un euphémisme, actuellement dans l'ancienne Yougoslavie, à l'égard des Bosniaques musulmans. Quelle tristesse! Les musulmans étaient maîtres de tout le littoral de la Méditerranée, de presque tout le pourtour aussi de la péninsule ibérique, c'est-à-dire de l'Espagne, de Portugal. Les pirates musulmans rasillaient alors les bâtiments, les bateaux qui étaient surpris sur la Méditerranée. Ils enlevaient les êtres humains comme si c'était du bétail, et je m'en excuse, afin d'en trafiquer ça sur le marché des esclaves. L'esclavage était très répandu à l'époque. Ou bien simplement, malheureusement, pour le plaisir d'extorquer à ces pauvres chrétiens en les écorchant à vif, on a les documents là-dessus, ou en les brûlant à petit feu, pour obtenir donc un aveu d'apostasie du christianisme. Et ces gens-là aussi réclamaient des sommes énormes pour libérer ces esclaves ou ces prisonniers. Des fois, c'était très exorbitant pour obtenir la liberté de ces gens. Et Jean de Matha, avec Félix de Valois, dit-on, ont été précisément suscités par le Christ pour fonder un ordre, le premier en date des grands ordres rédempteurs. Qu'est-ce qu'un ordre rédempteur? C'est un ordre qui était destiné à cette œuvre de miséricorde, de libération des prisonniers. C'est pour ça que souvent les trinitaires aujourd'hui sont aumôniers dans des prisons. Un ex-trinitaire, le merveilleux père Jean Patry, qui malheureusement n'est plus trinitaire, mais qui est très attaché aux trinitaires quand même, il va souvent les visiter, est aumônier depuis plus de 25 ans à la prison de Bordeaux. J'en profite pour saluer les prisonniers de Bordeaux qui m'écoutent le soir à minuit, me disent-ils. Alors donc l'ordre a été approuvé par le pape Innocent III, qui était un ami de Jean de Matha, à la fin de l'année 1198. C'est-à-dire donc, il y a très longtemps, il y a près de 800 ans. La règle nouvelle sous laquelle militait cet institut nouveau faisait une déclaration d'appartenance très spéciale à la Sainte Trinité. Elle exigeait la simplicité du culte, des églises. Elle désignait le supérieur de chaque couvent sous le titre de ministre. Elle limitait aussi la population de chaque maison au chiffre symbolique de 3 clercs en souvenir de la Trinité et de 3 frères laïcs, mais c'était changé très rapidement. Les revenus globaux de l'ordre devaient être, au terme de la règle, partagés en 3 portions égales. 2/3 étaient affectés à l'entretien des religieux puis à l'exercice de l'hospitalité, et l'autre tiers était mis en réserve. Pourquoi? Pour, justement, payer la rançon des captifs en Afrique du Nord. On ne lésinerait jamais lorsqu'il s'agissait d'accueillir et de traiter des visiteurs, des indigents, des malades. Il y en avait beaucoup à l'époque. Ce n'est pas qu'aujourd'hui qu'il y en a. Que de pauvreté dans l'histoire de notre pauvre humanité. S'astreindrait soi-même, disait-on, aux rigueurs de la pauvreté chez les trinitaires, en se refusant, par exemple, de porter sur soi les objets les plus usuels. On portait pas de couteau, de poignard ou de bourse. On s'interdisait même de monter à cheval pour les déplacements, même considérables. On vivait pauvrement, un peu comme les franciscains, et à plus forte raison en évitant la chasse à cours, avec le luxe obligé de tous les équipages, les chiens puis les faucons. C'était la mode dans le temps, la chasse à cours, ça a duré pendant des siècles, mais les trinitaires ne pratiquaient jamais ça. Pauvres, les trinitaires attendaient de la charité publique tout ce qui était nécessaire à payer la rançon. Les sympathies venaient à eux. Et on payait parfois de 3 à 4 000 livres, ce qui était des sommes énormes par tête de captifs. Les religieux, même parfois eux-mêmes, se constituaient prisonniers en échange de plusieurs captifs, puisqu'ils étaient religieux et prêtres, et qu'ils portaient un costume flamboyant, ce grand costume blanc de moine avec scapulaire, et sur le scapulaire en avant, ce grand tablier, il y avait la croix rouge et bleue. Ils étaient tonsurés, c'est-à-dire qu'ils portaient des couronnes de cheveux. Ils étaient nu-pieds ou portaient des sandales. Ils prenaient les fers des forçats, comme ça, sous ce costume, en échange de ces pauvres malheureux qui étaient ainsi libérés. Si les dons manquaient, les revenus de la fonction ne rendaient pas suffisamment la liberté aux gens, mais les trinitaires, ils suppliaient facilement à l'aide de quêtes à domicile, ils allaient partout. Ils allaient voir les évêques aussi. Ils cherchaient de l'argent partout pour libérer. Certains d'entre eux partaient pour Alger, pour Tunis, pour Constantinople, en Turquie, pour Tripoli, pour le Maroc. Ils pénétraient dans les bagnes. Ils rejoignaient sur les chantiers les esclaves, qui étaient appliqués à des travaux de construction ou de démolition. Ils négociaient avec les caïds l'affranchissement du plus grand nombre. Il fallait voir à leur retour ces infortunés, et c'est le texte d'autrefois, qui conservait encore des marques de la cruauté de leur maître, car les esclaves avaient des maîtres, mais des maîtres musulmans. Et alors, à leur retour, ils baisaient en se prosternant la terre de France, qu'ils n'espéraient plus revoir. D'autres appelaient en pleurant des parents, qu'ils reconnaissaient dans la foule. Et au milieu de la joie universelle, bien les religieux, les trinitaires, bien modestes, marchaient calmes et silencieux à travers la foule qui les comblait de bénédictions. Populaire entre tous, bien cet ordre hospitalier de la Sainte Trinité et des captifs a eu une extension rapide et durable, et à la veille de la Révolution, il dénombrait en France plus de 200 maisons. Les chiffres des rançons fournies par lui s'élevaient alors à 900 000 captifs qui avaient été libérés, donc près d'un million. Et nous verrons tout à l'heure comment cet ordre a été presque réduit à rien à cause de la Révolution et qui est ce Saint Jean de Matha. On raconte qu'en 1830, au siècle dernier donc, les troupes françaises ont eu la surprise émue de rencontrer parmi les derniers bagnards d'Alger le père Gervasio, ou Gervais si vous voulez, Magnoso, qui s'était voué à l'assistance de ces misérables prisonniers là-bas en partageant leur destin. Aujourd'hui, s'il est vrai que la principale de leurs œuvres leur laisse du répit, il reste aux religieux trinitaires des champs d'action extraordinaires, où ils se prodiguent à secourir la misère moderne de l'ordre matériel et spirituel sous toutes ses formes. On les rencontre d'ailleurs à travers le monde. Je pense qu'ils sont en Italie, en Espagne, en Autriche, en Roumanie. Ils sont aussi aux États-Unis, ici à Montréal, au Canada, à Cuba, en Argentine, au Chili, en France. Comme à tant d'autres, la terreur durant la révolution de mai 1793 au 27 juillet 1794, donc environ un an et deux mois, tellement d'exécutions, puis ça a été un régime dictatorial, ça leur a été fatal. Et au milieu du siècle dernier, ils ont tenté une double restauration, l'une à Faucon, patrie de Saint-Jean-de-Matin, l'autre à Cerfroy, où leur ordre a été fondé. Mais les expulsions de 1880 en France ont arrêté brutalement cet élan. Et puis, ils ont dû se réinstaller encore. Je vous ai parlé de leur costume qui était un des plus beaux de toute l'Église. On le voit encore parfois, ils le portent à l'occasion au cœur, près de l'autel, quand ils concélèbrent ou qu'ils assistent à des messes. Ce grand costume de couleur blanche, assez semblable à celui des Dominicains, sur la poitrine, là, ils ont, par surcroît, là, une croix rouge et bleue énorme. C'est en tissu, c'est collé contre le scapulaire, puis on une chape et un petit chaperon noir. Il y a aussi des sœurs trinitaires. Les religieuses, on distingue deux branches. Il y a les moniales cloîtrées, puis il y a celles qui sont actives. Il existe pour l'un et l'autre sexe, je vous le signale au cas où ça pourrait vous intéresser, un tiers-ordre séculier. Et dans ce tiers-ordre séculier, il y a une bienheureuse fantastique. La bienheureuse Anne-Marie Taïdji, une mère de famille. Elle n'est jamais entrée en religion. Anne-Marie Taïdji est morte comme une sainte en Italie. Et c'est l'illustration la plus récente de la grande spiritualité de cet ordre. Et c'est une laïque. Je vous en ai parlé longuement le 8 juin dernier. La cassette existe et est disponible. Et c'est dans un siècle donc très troublé. Mais plein de fois où François d'Assise avait entendu une voix qui lui disait « François, relève ma maison qui tombe en ruine ». C'est dans ce siècle où les hérésies étaient actives, je vous l'ai dit, les vices et les crimes étaient nombreux. Mais au fond de l'âme humaine, la foi est vivace. La foi demeure toujours inexterminable, on pourrait dire, même dans les pays où les persécutions les plus sévères, on l'a vu. Dans ce siècle, les persécutions étaient épouvantables en Russie et dans tant d'autres pays. La foi était toujours là. Elle a surgi depuis quelques années. On la voit vivante et elle va régner, je l'espère. Une foi noble et vraie et profonde. Dans ce temps-là, on se livrait à n'importe quelle passion. On tombait, mais on se relevait aussi, parce qu'il y avait toujours un soupçon de foi chez les pécheurs. On faisait le mal, mais on savait bien que c'était pas le bien. Les choses avaient gardé leur nom encore, on savait ce que c'était qu'un péché, ce mot abominable qu'on ne veut plus prononcer aujourd'hui, mais qui existe bien, un péché. Qu'est-ce que c'est? Un péché? C'est le rejet de l'amour de Dieu. C'est refuser d'être aimé par Dieu. C'est refuser d'être en union avec son amour. Qui veut notre bonheur, c'est tout. Pour ça qu'il nous demande de ne pas faire certaines choses, parce qu'elles détruisent en nous sa présence et qu'elles remplacent ces choses-là, ces péchés-là. Ça remplace la présence de Dieu par notre propre petite présence égoïste et insignifiante. Saint Dominique s'est occupé des captifs de l'erreur et enseigné la vérité. Veritas, comme ils mettent sur leur écusson. Saint François d'Assise, lui, s'est occupé des captifs de la pauvreté pour essayer de les libérer de ça. Et le troisième, Saint Jean de Matha, s'est occupé des captifs des prisons. Mais il s'occupe aussi, comme à la maison du Père, ici à Montréal, des captifs de la pauvreté. Jean de Matha, donc, est né vers 1160. Son père et sa mère étaient des chrétiens. Mais son père destinait son fils à la science. Il a étudié, en effet, dit-on, la chimie. Il a vécu à Marseille, parmi les riches. Mais en même temps, sa mère le conduisait dans le monde des pauvres, comme on conduisait autrefois les enfants. Je m'excuse de le dire, mais ma mère m'a beaucoup marqué là-dessus. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, hein, que je parle de ça. Mais enfin, vers 1931-32, ma mère me conduisait souvent dans les quartiers les plus pauvres. C'était la... Il y avait une telle pauvreté à l'époque à Montréal, on n'a aucune idée. Il n'y avait pas de secours direct, comme on dit. Il n'y avait pas de d'assurance. Il n'y avait rien. Les gens n'avaient rien. Ils vivaient dans des cabanes d'annonces commerciales sur le sol froid, la neige. Ils mouraient là. Et nous allions leur porter de la nourriture, des vêtements, des couvertures. J'étais ému quand j'avais 4-5 ans de voir ces choses-là. Le contraste entre son père et sa mère a frappé ce jeune Jean de Matha, et qui a médité là-dessus, puis a cherché sa voie. Il est arrivé à Paris, lui, vers 1180, donc vers l'âge de 20 ans. Il était attendu, accueilli par des personnages éminents, amis de sa famille. Il sentait le vide là-dedans. C'est très normal et beaucoup plus répandu qu'on pense que des jeunes sentent le vide. Et aujourd'hui, ils le sentent et ils se révoltent en se mettant des cheveux jaunes ou verts ou rouges, des anneaux dans le nez. C'est la même façon, quoi. Mais ils connaissent pas le Christ, ils connaissent pas l'Évangile, ils connaissent pas l'Eucharistie, ils connaissent pas ça. Ça les ennuie, alors ils réagissent autrement. Et dans un sens, je les admire. Vous direz que j'exagère. Oui, je les admire de réagir contre la bêtise de la vie matérialiste. Mais je voudrais donc qu'ils trouvent une autre voie, car ils sont dans un cul-de-sac. Il y avait un ennui secret qui s'était emparé de l'âme de Jean de Matha. Il a regretté son enfance, et comme il priait dans l'abbaye de Sainte-Geneviève à Paris, il entendit distinctement une voix qui prononçait trois fois ces paroles de l'Écriture. Vous savez, on entend des voix au fond de son cœur parfois, puis on les nie. On dit, bah, c'est le fruit de mon imagination, c'est... Non. C'est souvent vrai. Ce qu'il entendait, c'était « Studi sapientiae, fili mi, et litifica cor meum. » Étudiez la sagesse, mon fils, et réjouissez mon cœur. Alors, quand Jean de Matha est sorti de l'église Sainte-Geneviève, bien, il avait fait son choix. Il avait déjà consacré sa vie. Ce serait l'étude de la théologie, mais il ne savait pas où il s'en allait. Ça l'a possédé tout entier, la théologie, avec la prière et le travail. Il a fait la connaissance d'un gentilhomme italien qui s'appelait Jean Lothair, ou Giovanni Lothair. Et un jour, dans une confidence intime, c'est drôle, hein, Jean de Matha a dit à cet Italien, « Tu seras bientôt assis sur le trône de Saint-Pierre. » Et c'est vrai. Il est devenu Innocent III. Le moment solennel est arrivé où Jean de Matha allait dire sa première messe. Ce sont des événements presque légendaires, mais c'est fort possible que ce soit vrai. Je vous l'ai dit pour ce qu'ils valent. À cette époque, sa réputation de sainteté s'étendait dans le public. Et maintenant, quand la sainteté existe, aujourd'hui, presque toujours... Mais la sainteté est circonscrite à un petit groupe de personnes, parce que la foule ne s'intéresse pas à ça aujourd'hui. Mais dans ce temps-là, c'était tout le contraire. Ça attirait les foules et une multitude immense a rempli l'église lors de la première messe de Jean de Matha. Or, au moment où le jeune prêtre célébrait la messe, puis a élevé pour la première fois entre ses mains l'hostie, on a vu son visage s'embraser, son regard est devenu fixe. Et sa tête était lumineuse. Alors l'évêque de Paris était frappé de ce spectacle, s'est dit en lui-même, « Jean voit quelque chose que les autres ne voient pas. » Alors, l'évêque lui a dit, « Venez me raconter ce qui s'est passé. » Alors, Jean de Matha lui a dit, « J'ai vu l'ange du Seigneur, son visage était resplendissant, ses vêtements blancs comme la neige, il portait sur sa poitrine une croix rouge et bleue. » À ses pieds, il y avait deux esclaves qui étaient chargés de chaînes, qui étaient dans une attitude suppliante. L'un était un maure, c'est-à-dire quelqu'un d'Afrique, du Nord, et l'autre chrétien. Sa main droite reposait sur le chrétien et sa main gauche sur le maure, et voilà ce que j'ai vu. Alors, Jean de Matin avait vaguement attendu Félix de Valois. Félix de Valois habitait dans les montagnes du diocèse de Meaux, hein, en France, préparé dans le silence à la solitude, vers laquelle il se sentait appelé. Il pensait jour et nuit à la rédemption des captifs toutefois. Et un jour, Jean de Matin a dirigé ses pas vers le diocèse de Meaux, et dans le diocèse de Meaux, justement, vers les montagnes. Et enfin, il s'est trouvé face à face avec Félix de Valois. Et Félix de Valois avait été dirigé là par des voix mystérieuses. Ça nous arrive à nous aussi, on ne reconnaît pas souvent. Dieu nous aide et est à notre secours constamment. Alors son père, Raoul, et sa mère, Éléonore, avaient divorcé Félix de Valois. Ben oui, ça existait. Et l'excommunication de Rome était tombée sur la tête du comte Raoul. Ben, c'était défendu de divorcer. Et le chagrin du petit Félix, du jeune Félix de Valois, a été tel qu'il a voulu quitter du même coup sa famille et le monde. Il est passé quelque temps à Clairvaux et, fuyant l'admiration dont il était l'objet, il a cherché une solitude. Et pour cacher son dessein, il a passé quelque temps à la cour de son oncle Thibaut, comte de Champagne. C'était d'une très, très, très grande famille que ce Thibaut, comte de Champagne. Aucune parenté avec moi, hein, évidemment. Nous sommes de pauvres paysans, mes ancêtres, et un jour, il est disparu. Il a profité pour cette disparition d'une excursion dans une forêt. On l'a cherché partout, et ses serviteurs sont demeurés convaincus qu'il avait péri dans un ravin. Il était sûr qu'il était mort. Il était mort à son ancienne vie. Il naissait à une nouvelle, et ayant entendu parler d'un anachorète qui vivait dans une forêt, entouré de lumière et de grâce, eh bien, ce jeune homme s'était rendu près du vieillard pour partager sa vie, puis il l'a partagée en effet. Et avec elle, les grâces dont elle était remplie. Puis il est devenu le confident de celui qui ignorait les choses extérieures et savait les choses intérieures. Et quand le vieillard est mort, le jeune homme était formé, il avait reçu, avec le dernier soupir de l'anachorète, son dernier secret et son dernier présent. Et alors Félix préparé, enrichi, s'est disposé à prendre lui-même l'initiative d'une vie hérémétique. Mais là, il allait devenir un maître. Il est revenu en France. Changement d'habit le rendit méconnaissable. Il s'est installé au diocèse de Meaux, dans une forêt, sur une montagne. Il passa sa vie dans la prière et la contemplation. Et ce fut dans cette solitude que la voix qui parle au solitaire se fit entendre à lui. Et elle lui parla de la rédemption des captifs. Il s'est pas hâté de se mettre à l'œuvre tout de suite. L'action, pour lui, avait ses racines dans la contemplation. Elle a laissé mûrir dans la solitude et la contemplation le fruit de cette réflexion qu'il portait dans son cœur. Et à cette époque, Jean de Matha est venu le visiter. Alors, il n'y a rien de plus singulier dans l'histoire que les rencontres de saints. Rien n'est plus important, rien n'est plus accidentel, plus involontaire, plus imprévu. Deux hommes peuvent être perdus ou sauvés pour s'être rencontrés à temps ou à contre-temps. Il y a des hommes qui sont l'un pour l'autre une planche de salut ou bien une pierre d'achoppement. Il y a des hommes dont les noms sont unis quelque part, on dirait, et dont l'union visible sur la terre constitue le commencement ou le centre ou la fin de leur destinée. Dieu est d'autant plus visible dans la rencontre des inconnus que l'homme n'y peut mettre aucune préméditation. Il y a peut-être tel individu qui me sera un grand secours dans l'ordre de la pensée ou dans l'ordre de l'action. Il m'aidera, il me complétera, il me soutiendra, il me conseillera, il m'instruira, mais où est-il? C'est absolument impossible d'établir au-dessus même la moindre conjecture. On n'a aucune raison pour aller à droite ou pour aller à gauche. Non seulement on peut pas le trouver, mais on peut même pas le chercher. Aucune direction ne s'offre à nous. On ne sait pas. Jean de Matin et Félix de Valois n'avaient aucun moyen naturel de savoir qu'ils étaient unis dans la pensée de Dieu pour une œuvre commune. Ils ne savaient même pas longtemps d'avance quelle était cette œuvre. Ils auraient été bien embarrassés si quelqu'un leur avait dit « Il vous faut chercher un auxiliaire ». Un homme dévoué, à la même idée que vous. Ils avaient toutes les chances naturelles pour pas se rencontrer. Leur vie était très différente. Hein? Elle les avait jetés dans des directions les plus contraires. Leur famille se connaissait pas. Rien les appelait, ni l'un ni l'autre, dans une forêt près de Meaux. Rien, du moins, de ce qu'appellent les hommes quelque part, ordinairement. Mais pourtant, ils sont allés tous les deux, puis leur rencontre a été le point de départ de leur œuvre commune. Alors Jean de Matha a ouvert son âme à Félix qui admirait les voies par lesquelles son nouveau compagnon lui avait été mystérieusement préparé. Alors il fut convenu entre eux qu'ils vivraient ensemble, puis ils attendraient dans leur raison de nouvelles pensées, de nouvelles lumières. Ils ont vécu 3 ans ensemble. Peut-être l'homme qui aurait assisté pendant ces 3 années à leur entretien, à leur prière, serait plus savant que les savants. Qui sait combien de choses secrètes se sont déroulées aux yeux de ces deux hommes, qui avaient écarté d'eux toutes les causes d'erreur qui nous assiègent tous, surtout dans une ville comme Montréal. Aux yeux de ces deux hommes qui n'avaient qu'un ami, et cet ami était un saint. C'était extraordinaire. L'unique société de chacun d'eux était un saint. Ce saint était précisément celui dont l'autre avait besoin. Et chacun d'eux, un ami directement donné par la main de Dieu, par la main de Jésus. Et un jour, après 3 ans de vie commune, ils ont vu, dit-il dans leur légende, est-ce vrai, n'est-ce pas vrai, on ne sait pas, ils ont vu, dit-il, un cerf blanc, un cerf, un animal blanc, qui venait se désaltérer à la source d'eau vive, comme dans le psaume, hein? Comme un cerf altéré, brame, c'est-à-dire crie. Hein? Les protestants chantent beaucoup ce chant. Comme un cerf altéré, brame. Il portait entre son bois, là, les cornes, comme on dit en langage vulgaire, entre son bois, une croix rouge et bleue, semblable à celle que Jean, le jour de sa première messe, avait vue sur la poitrine de l'ange. Alors, ils ont quitté leur solitude et sont venus à Paris afin de communiquer leur projet à l'évêque, ainsi qu'aux abbés de Sainte-Geneviève et de Saint-Victor. Et le fameux évêque Eudes de Sully, qui était successeur de Maurice de Sully, a approuvé leur résolution et leur a donné des lettres de recommandation pour le pape Célestin III. Ces deux saints sont partis pour Rome, mais pendant leur voyage, Célestin est mort. À leur arrivée, qui ont-ils trouvé sur le trône de Saint-Pierre? Mais nul autre qu'Innocent III, l'ami de Jean de Matha. C'est celui auquel il avait dit « Tu seras pape ». Il était difficile, évidemment, de se présenter avec une meilleure recommandation. Alors, Innocent III a soumis à l'examen du Sacré Collège des cardinaux une œuvre dont il comprenait l'importance. Il a décidé que le 25 janvier, une messe serait célébrée dans la basilique de Latran. C'est la basilique mère de toute l'Église, la basilique de Latran. C'est pas Saint-Pierre de Rome, c'est surprenant, c'est celle du Latran. Enfin, je vous ai déjà parlé de ça lors de la fête de Saint-Jean de Latran, de cette basilique. Alors donc, une messe serait célébrée, donc à l'intention des deux fondateurs. Dieu qui voulait tout faire dans cette histoire merveilleuse, on a l'impression, l'a soulevé devant les yeux d'Innocent III le voile qui avait soulevé devant les yeux de Jean de Matha au jour de sa première messe. Ben oui, un voile, on peut dire, qui s'est soulevé. Le pape a vu ce qu'avait vu le jeune prêtre, dit-on, et le pape a vu l'ange du Seigneur revêtu du même habit et des mêmes couleurs, dans la même attitude, et l'esclave chrétien et l'esclave mort qui étaient à ses pieds. Innocent III, convaincu alors, a fondé immédiatement l'ordre de la Sainte Trinité pour la rédemption des captifs. Les occasions ne manquaient pas aux ailes des deux fondateurs. C'était le temps des croisades et un grand nombre de chrétiens tombaient entre les mains des musulmans. C'était terrible. En même temps, comme je vous l'ai dit, il y avait des corsaires ou des pirates musulmans qui infestaient les mers, qui s'emparaient des passagers, des équipages. Alors, ils étaient conduits dans les prisons de Tunis et du Maroc aussi, où on les entassait. Après les avoir enlevés, leur enlever la liberté, bien, les musulmans cherchaient à leur enlever aussi la foi chrétienne, afin de leur enseigner l'unicité de Dieu, parce que pour les musulmans, des chrétiens sont polythéistes, ils adorent toutes sortes de dieux, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils adorent du pain, ils adorent du vin, ils adorent Jésus, ils adorent, croient-ils peut-être la Sainte Vierge? Alors, on sait bien que la Sainte Vierge n'est pas une déesse, mais ça fait bien des dieux aux yeux des musulmans qui ne comprennent pas que nous, dans notre foi, il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, toutes les violences physiques et morales étaient accumulées sur eux. Les musulmans, à cette époque, faisaient ça pour bien faire, peut-on dire, hein? C'étaient les mères de l'époque, comprenons bien. Et l'ordre de Jean de Matthès s'est organisé avec une force et une sagesse qui faisait face à toutes les éventualités de cette situation abominable. Comme je vous ai dit, il s'occupait de payer des rançons. Alors les premiers membres de l'ordre portaient des noms bien que l'on connaît, des noms qu'on voit aujourd'hui, Jean l'Anglais et Guillaume Scott. Ben oui, peut-être un Anglais puis un Écossais, qui ont été parmi les premiers disciples de Jean, donc ont été les premiers vainqueurs, qui ont rapporté en Europe le butin désiré. Là, ils sont revenus du Maroc avec 186 esclaves libérés. Et la procession de ces captifs a traversé Marseille, comme je vous ai raconté. Saint Jean ne s'est pas contenté de cette simple délivrance. Il a pris toutes sortes de mesures. Il a fait de nouvelles institutions pour les soigner aussi, pour les nourrir, pour les conduire d'étape en étape jusqu'au lieu choisi par eux. Un peu comme fait les gens qui s'occupent de la maison du Père, qui ont une maison à Disraeli pour essayer d'aider les prisonniers de l'itinérance à se libérer. Il faut encourager la maison du Père, tenue par les Trinitaires, par le Père Silvio Michaud, à Montréal, boulevard René Lévesque. Et la charité de Saint-Jean de Matin n'abandonnait pas les captifs, donc délivrés à la misère, à la maladie, à l'isolement. Non, non, elle voulait la délivrance complète. Et elle conduisait à son foyer, à sa famille ou à son travail, les captifs libérés, soignés et guéris. Et Jean de Matin est parti lui-même pour Tunis, et malgré la difficulté, le danger de l'entreprise, malgré le prix énorme fixé par le souverain musulman, dans une audience que le saint lui avait demandé, mais Jean a pu obtenir 110 esclaves. Mais les musulmans, malheureusement, malgré l'ordre du souverain qui lui était sincère, n'ont pas respecté la convention passée entre Jean de Matin et le souverain. Ils se sont emparés du saint, ils l'ont frappé, ils l'ont laissé sanglant sur la place. Mais Jean, que rien n'arrêtait, est descendu lui-même dans les cachots, où les scènes les plus horribles s'offraient à lui. Le récit des malheurs lointains est faible auprès de la vue des malheurs présents. L'idée que Jean s'était faite des prisons africaines était dépassée par la réalité. Pour comble de douleur, il fallait choisir. Il n'en pouvait délivrer que 110. Puis les portes du cachot allaient se refermer sur leurs frères. Alors Jean de Matin a amené les plus misérables. Il les a conduits à Rome. Et à peine sauvé des périls effrayants d'une telle entreprise, il a songé à recommencer pour aller délivrer les autres malheureux. Puis un second voyage fut bientôt résolu. C'était un infatigable libérateur qui est reparti pour Tunis. Là, le gouverneur consentit encore à échanger quelques hommes contre beaucoup d'or. Mais les Tunisiens se sont montrés plus féroces que leur maître. Ils se sont ameutés contre le saint. Ils l'ont accablé de coups. Ils lui ont enlevé ses captifs. Jean de Matin les revendique avec la violence du dévouement qui ne veut pas avoir tout donné l'or pour rien. Les Tunisiens demandent une nouvelle rançon. Alors la prière de Jean de Matin lui procure la somme nécessaire en Europe. Là, les captifs sont remis en liberté. Mais la populace, que rien ne pouvait calmer, puisque son agitation venait de sa fureur interne et non d'une circonstance extérieure, bien la populace s'est précipitée sur le vaisseau qui avait amené Jean de Matin. Ils ont enlevé le gouvernail, ils ont coupé les mâts, ils ont déchiré les voiles, ils ont brisé les rames. Alors le départ était devenu impossible. Que fait donc Jean de Matin? Il a donné le signal du départ quand même. Et les passagers, tout le monde, ont eu à choisir entre deux genres de morts. Alors les voyant faire la manœuvre avec des tronçons de rames et de planches, les Tunisiens ont poussé des huées. Qu'est-ce qu'a fait Jean? Il s'est dépouillé de son manteau. Il l'a étendu en forme de voile et à genoux, le crucifix à la main, il a invoqué Marie, l'étoile de la mer. Les vents se taisent, là, et en moins de deux jours, le vaisseau désemparé, sans gouvernail, sans voile et sans rame, s'est rendu au port d'Ostie, ou Tibre. Le pape en a pleuré d'admiration. Mais Jean, finalement, est retourné à Cerfroy, où l'ordre avait été fondé. Quels ont pu être les sentiments, les entretiens des deux amis, Félix de Valois et Jean de Matin, dans une pareille situation? Avec-tu les souvenirs, les récits? Après avoir mêlé une dernière fois leurs larmes, se sont séparés pour ne plus se retrouver. Quand il est mort, Jean Mata a été averti de sa gloire par une vision, mais lui est allé le rejoindre. Le corps de Jean de Mata a été illustré par des miracles qui ont éclaté sur son tombeau. Et l'ordre des Trinitaires a été rétabli en France le 15 septembre 1859. Nous avons à Montréal la paroisse Saint-Jean de Mata qui est dirigée par les Trinitaires, c'est rue Allard. Je vous donne le numéro de téléphone pour les jeunes qui voudraient devenir Trinitaires. Pourquoi pas? 768-25-49 à la paroisse Saint-Jean de Mata. 768-25-49. Ou bien allez à la maison du Père, 550 S, boulevard René Lévesque, et allez voir le Père Silvio Michaud. Vous allez voir un homme solide, courageux et près des pauvres. Il y a aussi la maison provinciale au chemin des Vins à Saint-Bruno de Montarville. Il y a à Granby un centre de prière et de méditation spirituelle et de retraite dirigé par les Trinitaires. Il y a tellement d'occasions. Et si vous voulez voir, je vous le répète, un très beau film qui parle un peu de ces questions-là dans un sens, c'est Dead Man Walking au cinéma égyptien au Métropole. C'est l'histoire d'un condamné à mort qui est sauvé par une religieuse, sauvé, j'entends, libéré intérieurement.